Oh, est-ce que vous êtes prêts pour un enseignement glorieux des Écritures? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse considérer la chose suivante. La parole de Dieu va changer le cœur de toute personne avec qui elle rentre en contact. Toujours. Et notre but, et j'aimerais ce soir vous montrer, que la parole de Dieu porte en elle la puissance de transformer ce qu'une personne pense et même l'entier d'un pays. J'ai observé quelque chose de très intéressant dans les Écritures. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible. Je pense, j'en sais rien. Je pense que par exemple Romains, j'ai dû le lire plusieurs centaines de fois. Je pense que l'ensemble de l'Ancien Testament, j'ai dû le lire plusieurs centaines de fois. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, faites attention avec quelque chose. Ce n'est pas parce que quelque chose se trouve dans la section du Nouveau Testament que la personne qui vit cette chose est sous le Nouveau Testament en Christ pour autant. Hein. Prenons un exemple. Joseph, le père du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le père entre guillemets physique, c'est-à-dire celui qui l'a élevé, celui qui avait la responsabilité de lui lorsqu'il était sur terre, est un personnage qui n'apparaît que dans la section du Nouveau Testament, on est d'accord. Mais lui, pourtant, était encore sous la loi de Moïse. Vous voyez ? Et j'en ai pour preuve une chose. Dieu, dans l'Ancien Testament, et non pas dans la section de l'Ancien Testament de la Bible, dans l'Ancien Testament avant que Jésus vienne, Dieu devait parler par des rêves. D'accord ? Et depuis que Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il est monté au ciel et que le Saint-Esprit a été envoyé, Dieu ne parle plus par des rêves. Parce que le Saint-Esprit vit en nous et la Bible dit que nous lui plaisons par la foi. Or, si on doit avoir un rêve, ça veut dire qu'on ne marche pas par la foi. Parce que le rêve fait partie des sens physiques. C'est comme les signes physiques. Par exemple, il y a des gens qui disent, une fois j'ai entendu un témoignage qui est faux bien sûr, la personne disait que Dieu lui avait dit de faire le poirier à tel endroit. Le poirier c'est donc une prise, on va dire, acrobatique. Et dans un magasin, elle a fait, il y a une personne qui était là, elle a fait, oh, j'ai dit à Dieu, c'est quelqu'un qui fait le poirier, là maintenant je vais donner ma vie au Seigneur. Et Dieu m'a envoyé faire le poirier. C'est pas juste, c'est une fausse réflexion. Et ça fait rire beaucoup d'entre vous parce que vous êtes nés dans ce ministère. Donc quand vous êtes né à l'ambassade du Christ, vous vous dites comment est-ce qu'une personne peut être aussi infondée dans les Écritures. Et pourtant c'est quelque chose de commun. Alors ces signes-là dans l'Ancien Testament étaient courants. Rappelez-vous quand Élie le prophète a fait tomber du feu du ciel, n'est-ce pas, pour prouver l'existence de Dieu face à l'existence de Baal. D'accord ? Donc c'était un signe qui était utile. Maintenant, les signes que nous avons aujourd'hui pour l'existence de Dieu sont des signes qui sont liés à la rédemption que Christ a acquise pour nous à la croix. Par exemple, la santé divine, la prospérité. Vous voyez ? Par exemple, les miracles de guérison, les miracles de changement de mentalité, les miracles de changement de vie, l'intervention de Dieu dans des situations spécifiques. Oui. Mais par contre, des signes, typiquement des signes qui s'apparenteraient aujourd'hui à ce qu'on considère comme de la magie, d'accord, faire tomber du feu du ciel, une combustion spontanée, ce genre de choses-là n'arrivent plus sous le Nouveau Testament. Parce que cela relève de la foi. Et d'ailleurs, les miracles, comme Pasteur Chris qui les fait, n'est-ce pas, ou comme nous faisons, dites, je suis un faiseur de miracles. Donc, les miracles que nous faisons dans la vie des autres ne sont pas nécessairement quelque chose que Dieu utilise pour les amener à lui. Prenons un exemple biblique. Vous êtes prêts pour ça ? Jean chapitre 18 et verset 6. Les gens viennent arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Il devait être plusieurs centaines selon certains calculs. Et Jésus se tient devant eux et ils disent « Nous cherchons Jésus le Nazaréen. » Précisément, c'est Jésus qui leur a dit « Qui cherchez-vous ? » Et Jésus-Christ a répondu « Nous cherchons Jésus le Nazaréen. » Ou le Nazoréen, des fois c'est dit un peu. Ça dépend aussi quelle traduction. Parce qu'à Nazaréen et Nazoréen, c'est la même chose. C'est comme les gens qui disent les Hiverdonnois et les Hiverdonnais. Bien sûr, Hiverdonnais, ça ne se dit pas, mais il y a des gens qui le disent. Et pourtant, ça veut dire la même chose, n'est-ce pas ? C'est donc Nazoréen et Nazaréen, c'est la gentilité des gens de Nazareth. D'accord ? Et donc là, Jésus dit, c'est moi. Et littéralement, il dit, je suis. D'accord ? Et la Bible dit au Jean chapitre 18 et verset 6 que l'ensemble des gens sont tombés sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ils reculèrent et tombèrent par terre. La puissance du « je suis » a été déployée sur eux d'une manière puissante et illimitée. Et ce n'était pas une marque parce que c'était les ennemis du Christ, rappelez-vous, parce que parmi ces gens, il y avait ceux qui ont crucifié Jésus et ceux-là ont été les premiers à confesser son nom après sa mort. Donc le but de Jésus n'était pas de faire du mal à ces gens, au contraire. Quand Jésus a dit « C'est moi », la puissance de Dieu s'est déployée et ils sont tous tombés par terre. Amen. Donc, ces gens-là ont vécu ce miracle, mais c'était les premiers à le crucifier juste derrière. C'était les premiers à l'arrêter pour le crucifier. Donc vous voyez qu'une personne qui vit un miracle avec le Seigneur ne va pas forcément s'engager pour le Seigneur. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10 et verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'en viens au début de mon message, n'est-ce pas ? Que j'ai dû lire Matthieu, l'évangile de Matthieu, j'ai dû lire mais des centaines de fois. Je ne sais même pas combien de fois je l'ai lu, sincèrement. Vous savez, je le connais très bien. Et j'aimerais qu'on puisse voir quelque chose dans les Écritures que je trouve fortement intéressant. Vous savez, la naissance du Seigneur Jésus était l'événement le plus spectaculaire qui ne soit jamais arrivé après, bien sûr, la création du monde. Spectaculaire au sens que l'entier de la divinité, Colossiens chapitre 2, verset de tête 9 ou 11, que l'ensemble de la divinité a été mis dans un corps humain. Mais j'aimerais qu'on voie quelque chose dans Matthieu. Je lisais ça encore aujourd'hui. Quelle merveille nous avons en Christ. Amen. Regardez bien. Souvent, on a cette idée de la naissance du Seigneur où Jésus-Christ est dans une étable. Il y a un bœuf, il y a un âne également qui lui souffle dessus pour lui faire chaud. Il est dans une petite mangeoire, vous savez, faite de paille. Et vous savez, une fois, quelque chose d'assez comique, il y a quelqu'un qui avait fait une crèche et il a mis l'œuf, l'âne, le mouton, mais il a aussi mis un porc. Ce qui, bien sûr, est complètement faux dans l'Israël antique. Il n'y avait pas de porc en Israël, c'était un animal impur. Et donc, ça fait rire un peu tout le monde dans l'église en question. Il a eu un petit cochon. Vous voyez, ces idées qu'on peut avoir sous la naissance du Christ. Et bien sûr, il y a les rois mages qui sont là, il y a les bergers et tout cela. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Les gens estiment qu'il y avait trois rois mages, mais la Bible ne nous dit pas vraiment ça. Il y avait trois cadeaux différents. Ce qui, bien sûr, peut justifier qu'il y avait trois rois mages. La Bible ne dit pas non plus qu'il n'y en avait pas trois. Leur nombre n'est pas important, sinon la Bible nous l'aurait donné. D'accord ? Maintenant, on voit cette image des rois mages qui arrivent vers Jésus quand il vient de naître et qui posent leur présent à ses pieds pour honorer sa naissance. J'aimerais qu'on puisse prendre Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1. Parce que vous savez que les rois mages sont arrivés vers Jésus quand Jésus avait environ 2 ans, contrairement à ce qu'on pense, ils sont arrivés à la maison, non pas à l'étable. Regardez ce que la Bible dit. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Donc, ces rois mages venaient probablement... C'est pas exactement sûr, mais de Babylone. Donc ces rois, c'est un autre terme, c'est des hommes sages. On dit des rois mages, mais littéralement un mage, c'est une personne qui pratique la magie, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des mages. Et ces personnes-là étaient probablement des scientifiques qui utilisaient des incantations spirituelles pour arriver à leur fin. Et il y a quelque chose de très intéressant, parce que vraisemblablement, dans tout Israël, à part Marie et Joseph, et peut-être Élisabeth, la tante de Marie, personne ne savait que le Messie était né. C'est intéressant ça. Hein ? Combien de personnes, à part les bergers, et les bergers, excusez-moi, oui, il y avait aussi les bergers, peut-être leur famille étendue le savait, mais combien d'entre eux savaient que Israël venait d'accueillir le Christ, le Seigneur ? Combien ? Très peu de monde. La preuve en est que personne n'a rien fait de très spécial quand Jésus est né. Regardez, continuons. Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc tout Jérusalem était troublé d'entendre que le roi des Juifs, donc le Messie, venait de naître. Ou plutôt était né il y a quelque temps déjà. Santé. Il ne savait pas que le roi des Juifs était né. Mais pourtant, c'est l'événement le plus significatif de l'histoire pour Israël. Parce que c'est enfin ce Messie qu'ils attendaient. Et rappelez-vous, les Israélites pensaient que le Messie allait les délivrer des Romains, la plupart. La plupart des prophètes n'ont jamais vu venir l'Église, ni l'enlèvement, ni la fin des temps dans la tribulation. Pourquoi? Parce que ce sont des mystères, la Bible dit, le mystère de Christ. C'est pour ça que les prophètes n'ont pas venu voir l'Église. Quelques prophètes l'ont annoncé, mais la plupart des prophètes ne savaient pas, et l'exégèse et l'interprétation biblique de l'époque ne sous-entendaient pas que le Messie allait venir et établir une période de 2000 ans pour son Église. Je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui, mais sachez que l'Église a 2000 ans sur terre. Ensuite de ça, l'appel de Dieu pour les Juifs revient. D'accord ? Jésus, il est mort quand ? En sans doute l'an 33. Donc, écoutez bien, c'est intéressant. Hein ? Donc, ces rois mages arrivent et ils disent... Le roi des Juifs est né. Où est-il que nous puissions aller l'adorer? Et ayant assemblé, verset 4, tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Donc il savait qu'il parlait du Christ quand il a dit le roi des Juifs. Et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui pètera mon peuple Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Et c'est là qu'on voit que les rois mages, on voit dans les versets suivants, qu'ils ont dit il y a 2 ans. Donc l'étoile, très intéressant, est apparue en Orient et pas en Israël. C'est curieux, ça, personne n'a vu cette étoile en Israël. Personne n'a vu cette étoile en Israël. J'aimerais qu'on continue ce développement parce que c'est très intéressant. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit « Allez et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. C'est un menteur, il veut le tuer. » Et ayant ouï le roi, s'en allèrent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux. Regardez. Il y a quelque chose qui me fascine. Donc, il y a cette étoile qui apparaît en Orient. Regardez, la Bible dit au verset 1, pardon, verset 2. Car nous avons vu son étoile dans l'Orient. Ok. Donc, les rois mages ont vu une étoile. Ils ont su que ça parlait du Christ. Et ils vont vers Jérusalem pour voir, parce que Jérusalem était la capitale des Juifs. Et ils ont dit, où est ce roi des Juifs qui doit naître? Pourquoi? Parce que l'étoile avait disparu entre-temps. Et c'est pour ça que la Bible dit, regardez ça, au verset 10. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une forte, grande joie. Regardez ça. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux. Regardez ça, jusqu'à ce qu'elle vint et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Donc, regardez, c'est quelque chose d'assez merveilleux que Dieu a fait pour protéger l'intégrité du petit Jésus. Parce que si l'étoile était restée quand les rois mages sont arrivés, ils auraient juste eu à suivre également. Mais la Bible est claire, Jésus était déjà parti de Bethléem. Vous voyez? Donc eux, ils vont vers Bethléem, comme Hérode a dit, en espérant trouver Jésus. Et là, d'un coup, l'étoile réapparaît, ils la suivent et elle se met au-dessus de la maison là où est Jésus. Regardez. Et est-on entré dans la... maison. Oh, dans l'étable. Non, la maison. Jésus était déjà environ 2 ans. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternaient et lui rendirent hommage. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et étant avertis divinement en songe, donc en rêve, de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. J'aimerais juste qu'on saute pour répondre à une question intéressante. Verset 16, Hérode, voyant que les mages étaient joués de lui, fut fort en colère. Et il envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était acquis, qui s'était enquis exactement auprès des mages. Ce qui veut dire que Jésus est né, l'étoile apparaît, les mages viennent, ça leur prend 2 ans pour venir. Vous voyez? Mais j'aimerais qu'on voit quelque chose de spectaculaire. Comment se fait-il que ces mages... était au courant que le roi des Juifs, ce qui signifie le Messie, devait naître. Pourquoi est-ce que des mages qui sont d'une autre religion, probablement, ou peut-être qui croyaient au Dieu d'Israël, hein, pourquoi est-ce que ces mages savaient que le roi des Juifs allait naître, que le Messie allait venir, alors que eux, dans leur religion babylonienne, n'attendaient pas de Messie spécifiquement? En tout cas, l'histoire ne nous suggère pas qu'ils s'y attendaient. Comment se fait-il que ces mecs attendaient et quand ils ont vu une étoile, ils ont dit « c'est celle-là, on y va ». Et vous savez, on parle de roi, qui se détroit comme ça. Vous savez, quand vous transportez de l'or, de l'encens et de la myrrhe, vous avez des sécurités avec vous. Hein. D'accord ? Vous avez tout un... Et si vous êtes un roi, vous avez une sécurité qui se balade avec vous. Hein. Ce n'était pas rien, ce voyage. Voilà pourquoi il a peut-être pris 2 ans pour l'organiser. Ils ont peut-être dû traverser un désert et prévoir des tonnes d'eau avec eux. Vous voyez ? Ils ont vu l'étoile, ils ont dit « c'est ça, on y va ». Le roi des Juifs est né, on y va. Et ils avancent comme ça, tête baissée en Israël. Pourquoi ont-ils fait une chose pareille ? Ça paraît dénué de sens, surtout pour des gens qui n'étaient pas juifs. Ces gens venaient probablement de Babylone. J'aimerais qu'on voie quelque chose dans Daniel. Daniel, je vous dis tout de suite le chapitre. Daniel, chapitre 3. Donc, avant cela, les Juifs ont été déportés à Babylone. C'est ce qu'on appelle l'exide à Babylone. Exil, dans le sens où ils ont été exilés loin de leur pays, à Babylone. Et pendant cette période-là, il y a une histoire très spectaculaire avec Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi Nebuchadnezzar fait construire cette splendide statue. La Bible, je crois, nous donne même les mesures à l'instant. Ouais, 60 coudées, c'est pas très précis. Je vais essayer de trouver quelque chose un peu plus moderne à l'instant. Verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. C'est très grand, c'est plus grand que l'immeuble dans lequel on est. Hein. Bien plus grand d'ailleurs. Peut-être quoi, 2,5, 3 fois l'immeuble dans lequel on est. Je ne parle pas d'ici, hein. Je parle du gros immeuble. Hein. Ok ? Large de 3 mètres, environ ça. Donc en termes de coût, ça devait être quand même assez cher. Parce que c'était de l'or. Hein. D'accord ? Des tonnes d'or mises là-dedans. Quel idiot. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, le jury consul, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Et donc là, je vais vous faire l'histoire courte. Mais le roi Nebuchadnezzar a vécu quelque chose avec le Seigneur, alors qu'il était adorateur des faux dieux. Il a ordonné que tout le monde s'agenouille devant cette statue. Il a dit, si vous ne vous agenouillez pas, je vais vous mettre dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, c'est un bûcher. Mais un bûcher qui était fait spécifiquement dans une espèce de structure en alliage de métal qui résistait à des très grandes chaleurs et les gens étaient balancés dedans. Certains historiens pensent que les gens, c'était en pierre, parce que la pierre ne brûle pas, comme vous savez. Et donc c'était quelque chose qui faisait que les gens en fait mouraient même très vite. Parce que la chaleur était si intense que pouf, ils mouraient en l'espace de quelques secondes. Mais c'était aussi un acte de torture affreux parce que la plupart des gens dans les bûchers, par exemple, du Moyen-Âge, les gens mouraient asphyxiés. C'est-à-dire qu'ils mouraient en l'espace de 2-3 minutes et après ils brûlaient. Tandis que là, les gens mouraient de leur flamme. Vous voyez, donc c'était vraiment un acte de torture intense. Vous voyez ? Et donc cet homme-là dit, si vous ne vous agenouillez pas, vous serez jeté dans la fournaise ardente. Et là, il y a Shadrach, Meshach et Abednego, 3 hommes de Dieu juifs, qui refusent obstinément. Ils disent, car Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et s'il ne le fait pas, même alors, nous ne nous agenouillerons pas devant cette statue. Et donc là, ils sont lancés dans cette fournaise. Vous voyez ? Et là, illico presto, l'ange du Seigneur, le quatrième homme, l'Église apparaît, pouf. Ça, c'est une préfiguration de l'Église, ce quatrième homme dans le feu. Hein. D'accord ? Ok. Et là, Nebuchadnezzar, il dit la chose la plus merveilleuse. Regardez ce qu'il dit. Regardez au verset 28. Nébuchadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres, littéralement d'immondices. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Donc là, il y a Nébuchadnezzar. Donc rappelez-vous, les Juifs sont dans une terre étrangère. Nous, on est où en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce qu'on est chez nous là? Non, c'est une terre étrangère pour nous ici. La preuve, on est ambassadeur. Un ambassadeur n'est jamais ambassadeur dans son pays. Il est ambassadeur dehors. Vous voyez? Donc nous sommes ambassadeurs de Christ. Dis, je suis ambassadeur de Christ. Donc dans le Daniel 4, là, il y a encore plus profond, c'est que Nébuchadnezzar devient comme un animal. C'est un jugement de Dieu qui tombe sur lui. Et après, il parle de ça. Il en parle justement au verset 4, au chapitre 4. Moi, Nébuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Donc, il explique ce qui s'est passé. Daniel opère dans une sagesse extrême où il tourne là le jugement de Nébuchadnezzar comme une bénédiction de Dieu. Parce qu'il dit, à la fin de ton jugement, tu seras restauré dans ton royaume. Et tu seras la honte de tes ennemis. Ça veut dire que les ennemis vont avoir... Ils vont être dans une honte extrême à cause de toi. Et donc, il a tourné le jugement de Dieu comme étant un avantage pour Nébuchadnezzar qu'elle ait restauré et défaire ses ennemis. Vous imaginez la sagesse de Daniel? Ok, c'est pas pour rien. Et là, donc, quelque chose se passe avec Daniel. Un instant. Je cherche juste le... Parce que tout ça, ça se passe quand ils sont justement à Babylone. Regardez, vous connaissez Daniel dans la fosse aux lions. Il y avait une interdiction qui avait été mise, le roi. Donc là, on n'est plus avec Nébuchadnezzar, on parle de Darius le Mède. D'accord ? Donc le roi Darius. Et il aimait Daniel. La Bible dit qu'il aimait particulièrement Daniel. Et il s'est fait jouer par ses conseillers. Ils ont dit que pendant 30 jours, toute personne qui se prosterne et adore un autre Dieu que toi, vous voyez, soit jetée sur les lions. Et là, le roi Darius, il dit... « Oh, ceci me paraît bon, je vais le sceller du sceau royal. » Et le sceau royal, c'est un sceau qui faisait que personne, ni même le roi, pouvait annuler sa loi. Voyez l'importance de nos paroles. Logos, dites Logos. Ok, gloire à Dieu. Alors, continuons. Il y a cette influence qui se passe. Et là, Daniel, alors que le roi d'avant avait dit « Toute personne qui parle en mal du dieu de Shadrach, Meshach, Abednego » soit réduit en pièces et sa maison en un tas d'immondices. Eh bien, ce roi vient et dit « Vous allez m'adorer moi maintenant pendant 30 jours. » Et là, Daniel refuse. Et la Bible dit même que Daniel a été ouvrir la porte pour que tout le monde le voit en train de prier en direction de Jérusalem. Il a ouvert la porte de son balcon. Tout le monde l'a vu. Et ils attendaient que ça parce qu'il priait à la même heure. La Bible dit tous les jours. Il avait une discipline de prière. Vous voyez? Ok. Et donc il prie. Il le jette dans la fosse aux lions. Bien sûr, Dieu, la Bible dit que l'ange du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, est venu fermer la bouche des lions. D'accord? Et après, la Bible dit que Alléluia. Donc de nouveau, il y a eu Nébuchadnezzar deux fois qui a eu une rencontre avec le Seigneur et qui a proclamé la seigneurie du roi d'Israël, du Dieu d'Israël. Et là, il y a Darius qui fait la même chose. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces rois mages ? Ces rois mages, ils viennent du même endroit que là où étaient Daniel et ses amis. D'accord ? Et en fait, le peuple d'Israël, pendant 70 ans, ils sont restés en exil. Ce n'était pas long. Hein ? En 70 ans, ils ont tellement influencé la culture de Babylone que les Babyloniens s'attendaient et avaient été transformés par la parole de Dieu qu'ils avaient amenée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a retrouvé des traductions de l'Ancien Testament. Vous voyez ? Et en fait, la puissance de Dieu au travers de ces gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, je le précise, qui n'étaient pas en Jésus-Christ comme nous, qui n'avaient pas la puissance de résurrection à l'œuvre dans leur esprit, ces gens-là, grâce à l'appel de Dieu sur leur vie, ont transformé une nation au point que les rois mages ont été utilisés par Dieu pour financer le ministère du Christ. Parce que vous voyez comme vous voulez, mais qu'on amène des trucs précieux, c'est les offrandes et c'était la provision surnaturelle pour le ministère de Jésus. Cet argent a été utilisé par les parents de Jésus pour l'élever, pour payer à manger. Je vous garantis qu'il y avait assez pour que Jésus puisse être nourri, logé, blanchi jusqu'à ses 30 ans, qui commence son ministère. C'est sûr. Donc, vous voyez que Dieu a... envoyé, donc même dans cette détresse que Dieu ne voulait pas d'ailleurs, soit dit en passant, Dieu n'a pas voulu qu'ils partent en exil. C'était leur désobéissance qui les a conduits en exil. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit de merveilleux? Ils sont en exil, ok? Et deux rois, en trois occasions différentes, expérimentent Dieu. Et à cause de ça, Ça a changé l'entier d'une culture. En 70 ans, ils ont fait ça. Hein. C'était pas long. Hein. Vous voulez que je vous montre que c'était bien en 70 ans? Daniel chapitre 9. Comme ça, vous voyez. La première année du règne de Darius, fils d'Azuréus de la dynastie de Médès, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que les nombres d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem étaient de 70. Donc, 70 ans, ils sont restés en exil. Et en 70 ans, ils ont changé l'entier d'une culture au point que, quelques milliers ou centaines d'années après, les rois mages, qui avaient lu les prophéties bibliques et les avaient comprises, se sont pointés en Israël dès qu'ils ont vu l'étoile qu'ils attendaient. Vous voyez? Donc c'est et qui sont venus avec leurs ressources. Avec leurs ressources pour le Seigneur. Et donc moi je me pose une question, si en 70 ans, sans le Saint-Esprit, nous on a le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans un cadre de punition, nous on est dans un cadre de faveur. D'accord? Dans un cadre d'oppression, nous on est dans un cadre où c'est nous qui assujettissons les choses. Où la rédemption de Dieu n'était pas active en eux. Nous, la rédemption a été activée et nous avons été bien plus que rachetés. C'est notre ancien homme qui a été racheté pour qu'on devienne notre nouvel homme. D'accord ? Le chrétien n'a pas été racheté, ça c'est une erreur. Le chrétien, son ancienne nature a été rachetée pour qu'il puisse être transformé en Dieu. Ok ? Restez concentrés, c'est très important. Donc, si sans tous ces éléments, ils ont réussi à faire en 70 ans influencer l'ensemble d'une, plus qu'une région, c'était vraiment un royaume, le royaume de Babylone, qui était d'ailleurs le plus grand du monde à l'époque. Hein. Si en 70 ans, sans le Saint-Esprit, sans toutes ces choses-là, ils ont pu amener un changement si radical que même les mages de ce pays étudiaient les Écritures et agissaient en conséquence par après en apportant leur offrande, vous vous demandez à quel point l'enfant de Dieu peut être victorieux pour assujettir son monde. Parce que si eux, dans un statut d'esclave, nous avons été libérés, amen, ont pu faire autant pour le Seigneur, à combien de fortes raisons nous pouvons faire plus pour le Seigneur? C'est une vraie question. Hein. Tenez-vous bien droit, s'il vous plaît, on est à l'église. Hein. Ok, gloire à Dieu. C'est pour ça que j'aimerais que vous compreniez à quel point c'est crucial que le chrétien arrête de faire le fainéant et qui commence par influencer son monde pour Christ. Si en 70 ans, ils ont réussi à assujettir un pays, qu'est-ce que nous, on peut faire? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, nous, on l'a. Ils n'avaient pas la rédemption, nous, on l'a. Ils n'avaient pas une parole puissante comme la nôtre, nous, on l'a. Et ils avaient des persécutions très fortes que nous n'avons pas forcément. Ça dépend des pays. Ils étaient esclaves, nous ne le sommes pas. Le gouvernement était contre eux. Ils vivaient, vous vous rendez compte, c'est des gens qui vivaient du racisme, hein, proprement parlé. Hein, vu qu'ils venaient dans un autre pays, d'une autre ethnie, t'es esclave. Mais pour autant, ils ont été promus princes. Ils étaient princes de la province de la Babylone, la Bible dit. Qu'est-ce que vous allez faire avec Christ en vous? La seule différence, c'est que eux, c'était un automatisme. Dieu avait béni et a béni toujours le peuple juif. Et ils vivent de leur naissance naturelle dans cette plénitude, enfin plénitude, c'est pas vraiment une plénitude, dans cette, on va dire, dimension de Dieu. Nous, c'est parfois. Soyons sérieux avec ce que Dieu nous a appelés à faire. Soyons très sérieux. Comment un chrétien ne peut pas lire la Bible tous les jours? C'est quelque chose qui m'affabule. Cet homme-là priait tous les jours, Daniel, quitte à être jeté au lion et tué en public. C'est pas une, vous savez comment... Je vais être un peu graphique là. Vous savez comment un lion, il tue sa proie? Bon, premièrement, il arrache les membres, d'accord? Et ensuite, il la vide de son sang. C'est une mort extrêmement dure, vous voyez? Donc, il était prêt à souffrir une mort lente et douloureuse pour prier son Dieu. La plupart des chrétiens ne prient même pas tous les jours. C'est une honte monumentale. C'est une gravité extrême. Parce que Jésus-Christ revient bientôt, bientôt. C'est pour ça que la plupart des chrétiens aujourd'hui, Pasteur Christ nous l'avait même enseigné en 2021, je pense, pendant You Love World Special, la saison 2. Je pense la phase 5 et le jour 1. Il avait bien expliqué. La plupart des chrétiens qui étaient chrétiens jusqu'à 2020, 2021, beaucoup d'entre eux vont tomber et arrêter de suivre le Seigneur. Beaucoup ont même déjà arrêté. Et l'Église est pour eux juste un jeu. Il est dit par contre, les âmes qui vont venir par après, ces âmes-là vont être absolument vendues au Seigneur. Parce que vous voyez, la Bible est assez paradoxale. Elle promet un grand, une grande apostasie des chrétiens, mais aussi un grand réveil en même temps. Il y aura une espèce de changement. Tous les vieux chrétiens, beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, toutes les églises, je vous l'ai déjà dit, toutes les églises qui ont appliqué des mesures Covid restrictives qui interdisent les gens de venir à l'église, je ne parle pas de demander aux gens de se désinfecter ou prendre des noms, hein, ça peut encore passer, d'accord, mais toute église qui a fait une quelconque discrimination par rapport au statut vaccinal, comme on l'a vu, toutes ces églises, Dieu en est sorti depuis longtemps. Vous savez combien on en fait? Vous savez que même les catholiques n'ont pas fait ça? À Genève, ils ont refusé de le faire, les catholiques. Les passes Covid et tout. Eux qui ont des fausses doctrines à plus en finir, les catholiques. Hein, parce qu'ils en ont des fausses doctrines, les catholiques. Hein. Bon, après, ils aiment Jésus quand même. Hein, mais ils en ont des fausses doctrines. Hein. Ah, ça, je peux vous dire, alors. Confessionnal, il faut se baptiser. Parce qu'en fait, ils pensent que le baptême absout du péché originel. C'est qu'ils ne sont pas du tout dans les Écritures, ce genre de choses-là. Vous voyez? C'est pas dans la Bible. Sinon, Jésus n'aurait pas été baptisé à 30 ans. Et surtout, il n'aurait pas été baptisé du tout. Vu que Jésus n'avait pas de péché originel. Il pense que Marie a été conçue sans péché. Il pense qu'on doit aller se confesser. Il pense tous ces trucs-là. Mais derrière, c'est eux qui ont refusé d'appliquer le passe Covid. Même les évangéliques qui prétendent être tellement proches de Dieu, toujours comme ça, c'est les premiers à avoir fait « Oh oui, on va fermer nos églises. » Vous voyez? Le passe Christ nous l'a dit. Plein de chrétiens vont s'effondrer. Mais ceux qui viendront après, parce qu'ils ont été gagnés par la puissance du Saint-Esprit, ceux-là vont être d'une victoire et vont être l'armée et l'épouse que Christ a prévue pour lui-même. Oh, alléluia, levez-vous vers Dieu et bénissez Dieu pour cela. Alléluia, dites « Je suis l'épouse de Christ ». Dites-le, « Je suis l'épouse de Christ ». Dites « Je suis plus que vainqueur ». Levez-vous, oui, vous pouvez vous lever, levez-vous. Dites « J'avance de tous égards ». Constamment. Gloire à Dieu.